Bonjour et bienvenue dans Questions politiques et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, on a dit de lui qu'il incarnait un conservatisme apaisé et de bonne humeur, entre le conservatisme énervé de Zemmour et le conservatisme malheureux de Finkielkraut. Fin de citation, la formule est de son éditeur. Il y a quelques mois encore, il était l'espoir de la droite, candidat idéal, tête de liste des Républicains aux élections européennes. C'était il y a moins d'un an et tant de choses ont changé depuis. Nouveau président, nouvel organigramme pour le parti. Et LR s'apprête à lancer le grand chantier de la refondation du corpus idéologique. L'avenir de la droite est-il toujours au conservatisme ? Question politique est en direct avec l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Pour intervenir, l'application mobile France Inter ou le hashtag Question Poll.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Solène de Royer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait monsieur Bellamy et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Partons de l'actualité de cette date symbolique et peut-être d'un sentiment de déjà-vu. Hier, cela faisait tout juste un an que débutait le mouvement des Gilets jaunes. On a vu des défilés, on a vu des scènes de violence à Paris, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Comment est-ce que vous avez vu ces images un an après le début d'un mouvement totalement inédit dans l'histoire de la Ve République ?
Il y a d'abord le mouvement des Gilets jaunes et cette manifestation, au départ pour des raisons sociales, pour des raisons de pouvoir d'achat. Mais je ne voudrais pas confondre ce qui s'est passé avec ce qu'on a vu hier. Et je voudrais commencer par revenir sur les images que nous avons tous à l'esprit. Les images de ces casseurs qui, en plein Paris, ont pu, pendant des heures, incendier, empêcher les pompiers d'intervenir, caillasser les pompiers, et finalement détruire même des monuments commémoratifs et cette stèle en hommage au maréchal Juin.
Place d'Italie à Paris.
Et je crois que devant ces images, on ne peut que constater l'incroyable impuissance de l'État. C'est quand même des images frappantes qui montrent que le désordre peut régner au cœur de la capitale aujourd'hui encore. Alors bien sûr, les indignations se font entendre de partout, mais moi je voudrais demander au gouvernement, qu'en est-il de la réponse qui est apportée aujourd'hui à ces violences ?
Vous trouvez que la police, les forces de l'ordre n'ont pas agi avec suffisamment d'énergie pour réprimer les manifestants ?
Nous pouvons dire notre soutien absolu aux forces de l'ordre qui subissent ce désordre depuis tant de temps maintenant, qui sont dans un état, j'imagine, d'épuisement devant cette tension à laquelle ils font face. Mais ça n'enlève rien à la responsabilité de toute la chaîne de l'État qui aujourd'hui est défiée au cœur de la capitale.
Mais très concrètement,
cette personne qui, devant les yeux des caméras, était en train de détruire cette stèle, est-ce que maintenant, cette personne qui était reconnaissable de toute évidence, est-ce qu'elle est arrêtée ? Est-ce qu'elle sera condamnée ? Ceux qui, et parce que ça n'est pas seulement un fait isolé, ceux qui, il y a quelques jours, brûlaient un chapiteau à Chanteloup-les-Vignes, ces hommes que Édouard Philippe a décrit simplement comme des imbéciles. Est-ce qu'ils ont été arrêtés ?
Mais vous dites quoi ? Vous dites faiblesse de l'État ? Vous dites
pas faiblesse de l'État, défaite de l'État. C'est très frappant. Et encore une fois, le grand drame, c'est que c'est toute notre démocratie qui recule. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté lorsqu'il n'y a pas d'ordre public. Et il n'y a pas même d'ailleurs de liberté de manifester pour beaucoup de ceux qui, au début du mouvement des Gilets jaunes, ont voulu de manière paisible dire leur refus devant une hausse de taxes. Il n'y a pas de liberté de manifester lorsque toutes les manifestations sont désormais systématiquement prises en otage par des casseurs, par des black blocs que l'on voit agir dans une forme d'impunité qui semble un peu sidérante.
Hier, il y a une manifestation qui a été interdite au dernier moment par le préfet de police. Quand vous dites que c'est en gros la chienlit, est-ce que vous pensez que c'est par idéologie ou par incompétence ?
Je ne crois pas que ce soit par idéologie. Je ne vois
laxisme,
pas quelle idéologie délirante pourrait conduire à laisser prospérer un tel désordre. Mais je pense qu'il y a, en tous les cas, ce n'est pas à moi d'apporter les réponses sur les causes.
Non, mais puisque vous attaquez en considérant qu'on voit en gros des scènes partout qui se multiplient.
Mais ça, c'est un fait.
Non, mais d'accord, mais vous imputez ça à quoi ?
Mais notre État, aujourd'hui, notre État est à genoux. En tous les cas, il donne le sentiment de ne pas être capable de rétablir l'ordre. Quand, et je prends d'autres exemples, mais il se
met... Malgré les violences policières, c'est assez curieux, en fait. C'est comme si vous reprochiez, en tout cas, aux forces de l'ordre de n'être pas intervenu assez fort.
Mais ce qui est assez terrible, c'est qu'on a l'impression, et là, pour le coup, il y a des stratégies de maintien de l'ordre qui sont manifestement défaillantes. On a l'impression qu'en effet, notre État est fort avec les faibles et faible avec les forts, faible avec les violents, alors qu'à l'inverse, on a, par exemple, l'un de vos confrères journalistes qui a été victime de l'explosion d'une grenade. On a le sentiment, au fond, que, alors que les casseurs ne sont pas interpellés, on voit une stratégie de maintien de l'ordre qui, elle, continue à maintenir une forme de tension, de crispation, et qui ne cesse d'ailleurs de faire monter cette tension au lieu de la résorber.
Alors, au-delà des violences, quels enseignements tirez-vous de ce mouvement social inédit, et diriez-vous que ce mouvement a apporté des choses positives ?
François-Xavier Bellamy.
Pour que ce mouvement apporte des choses positives, il aurait fallu que le gouvernement y réponde d'une manière constructive, d'une manière claire. Or aujourd'hui, j'ai le sentiment que, malheureusement, un an après la naissance du mouvement des Gilets jaunes, malgré l'agitation médiatique qui a été organisée autour du grand débat, de fait, rien n'a changé aujourd'hui. Nous n'avons toujours pas de cap clair vers lequel nous diriger, de réponses qui sont apportées aujourd'hui à cette inquiétude.
Les 17 milliards, c'était pas la bonne solution, c'était pas suffisant.
C'était une manière de mettre un sparadrap très coûteux sur une situation qui n'est pas résolue sur le fond. Et je prends un exemple tout simple de cette espèce de situation curieuse dans laquelle nous sommes, où on a un maximum de tensions sans en réalité avoir en face de réformes claires qui soient faites. La révolte des Gilets jaunes, elle s'est faite non pas pour une réforme courageuse qui était proposée, mais pour une énième hausse de taxes. Et de la même manière, aujourd'hui, on est dans une situation très curieuse dans cet étrange débat sur la réforme des retraites qui ne cesse d'agiter les tensions et les crispations, qui menacent de paralyser la France dans quelques jours, alors qu'on ne sait toujours pas quelle réforme nous est proposée et que nous n'avons toujours pas d'idée de ce cap que le gouvernement propose de suivre.
Quand vous parlez de sparadrap, vous considérez qu'il n'y a pas eu assez d'argent ou qu'il y a eu de l'argent pas où il fallait ? Ou alors, et deuxième question, est-ce que vous considérez comme Jérôme Sainte-Marie que c'est une espèce de revival de la lutte des classes qu'on avait un petit peu oublié pendant un certain temps, ce qu'on voit actuellement ?
Je crois que nous sommes un pays qui n'arrive plus à débattre et qui ne vit la démocratie que sous la forme d'un combat. Et sur ce point, je partage l'analyse de Jérôme Sainte-Marie. Et je crois que c'est d'ailleurs un très grand problème que nous rencontrons aujourd'hui, que au lieu que, par exemple, le gouvernement mette sur la table un projet clair pour sa réforme des retraites et qu'on en débatte et qu'on en discute, et qu'on le critique ou qu'on le soutienne,
mal orienté ou c'est pas le problème, c'est quelque chose de beaucoup plus global.
Mais le problème est beaucoup plus global en effet. Et mettre 17 milliards pouvait permettre de faire un peu illusion, un peu plus longtemps, un peu plus de temps, mais ça ne résout pas le problème sur le fond.
Mais quand l'OFCE dit que c'est là une augmentation du pouvoir d'achat depuis 2007 qui on n'a jamais vu à 800 € supplémentaires, est-ce que vous considérez que ça n'est pas un problème de pouvoir d'achat, ou fallait faire encore plus ?
Mais c'est pas seulement un
Qu'est-ce
problème de pouvoir
d'achat,
c'est très clair.
Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été aux affaires ?
Je crois que le grand problème, encore une fois, c'est qu'on demande à un gouvernement de proposer un cap, de proposer une vision. Et oui, évidemment, il y a un problème qui dépasse de très loin la question du pouvoir d'achat, qui est celui, par exemple, de la France périphérique, d'une France qui se sent de plus en plus délaissée, qui voit les services publics s'amoindrir, qui voit, on le disait à l'instant, l'État incapable de faire face aux missions les plus régaliennes. Et nous avons, évidemment, des propositions à faire sur le sujet. Mais il faudrait encore que le gouvernement fasse des propositions et qu'on puisse en débattre. Et c'est simultanément la crise de l'hôpital, c'est simultanément la question de ce débat impossible sur la réforme des retraites qui fait monter cet état de tension et de crispation sans, encore une fois, que face à cette agitation, eh bien, on ait le sentiment de pouvoir discuter et dialoguer ensemble.
Justement, pour qu'on comprenne bien votre point de vue, quand on regarde ces différentes colères qui s'expriment avec plus ou moins d'intensité, après les pompiers, les policiers, on a vu la mobilisation dans les hôpitaux, celle de certains étudiants, avant le 5 décembre, dans les transports publics et la fonction publique contre la réforme des retraites, quel est le point commun, quoi de commun pour vous entre toutes ces colères ?
Eh bien, je vous dis, pour moi, le point commun, c'est que nous sommes dans un pays qui ne parvient plus à débattre, mais qui n'arrive plus qu'à envisager les relations politiques sous la forme d'un combat. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une situation préoccupante. Mais je crois, parce que ce qui est très curieux, c'est que...
Mais vous ne répondez pas à la question. Quoi de commun entre le mouvement dans l'hôpital public et ce qu'il se prépare pour le 5 décembre prochain dans les transports ? Quoi de commun entre ce que vivent les pompiers, les policiers et les étudiants ?
L'autre point commun, c'est que nous sommes aussi, alors on peut pas confondre tous les mouvements que vous évoquez à l'instant, mais j'observe que beaucoup de ces mouvements de colère et de révolte sont portés par ceux qui, depuis très longtemps, portent le poids de l'effondrement de l'État partout dans les territoires. On pourrait ajouter à ceux que vous venez d'évoquer les enseignants, qui sont directement victimes de l'incapacité que nous avons aujourd'hui à assumer les missions du service public, à assumer au fond le cœur de l'État régalien. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, par exemple, il faudrait proposer une réforme des retraites ambitieuse et exigeante, une réforme des retraites courageuse aussi, parce que nous avons besoin de remettre de l'énergie dans le régalien, dans les institutions, dans les services publics, dans l'hôpital par exemple, dans l'éducation nationale, pour faire en sorte de garantir que la mission de l'État soit assumée partout. Et ça suppose, c'est vrai, de réorienter les politiques qui sont menées, peut-être de la dépense sociale qui est l'objet d'une forme de fuite en avant, mais vers la dépense d'intervention de l'État.
Ce serait quoi une réforme des retraites courageuse ?
Mais ça consisterait à dire simplement aux Français, en les regardant dans les yeux, que oui, c'est vrai, l'espérance de vie a augmenté, que nous sommes l'un des pays en Europe où l'on passe le plus de temps de sa vie à la retraite, et que, par mesure de justice envers les générations qui viennent, et pour permettre d'éviter que nous continuions dans cette espèce de spirale de la dépense sociale, eh bien, on puisse se donner les moyens de travailler un peu plus longtemps.
C'est ce qui a été dit, ça.
Mais non, pas du tout. Monsieur. Aujourd'hui, le président de la République nous propose une réforme des retraites dont le postulat, c'est qu'elle ne fera faire aucune économie à l'État. Donc ça n'est pas du tout le même angle, ça n'est pas du tout le même axe. Et le grand paradoxe, c'est que d'ailleurs cette réforme va coûter de l'argent public et qu'on va mettre le pays dans un état de crise sociale sans précédent pour une réforme incompréhensible et qui coûte de l'argent public. Et je crois qu'on a ici, d'une certaine manière, malheureusement, aussi bien l'attention que l'inefficacité. C'est très dommage, c'est très triste et c'est la marque de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On nous avait promis la fin des clivages, on n'a jamais connu un tel degré de tension.
Est-ce que vous demandez demain au gouvernement, vous leur demandez de renoncer, de reculer, d'enlever leur réforme des retraites? Certains demandent une grande conférence sociale avant le 5 décembre. Solennellement, vous leur dites stop, on arrête et on repart sur d'autres bases?
Mais non, je demande au contraire au gouvernement de nous dire d'abord quelle réforme des retraites il veut faire, de manière précise et claire. On a une espèce de succession d'allers-retours. On a eu la concertation menée par Jean-Paul Delevoye pendant plus d'un an. Au terme de cette concertation, un rapport a été rendu et instantanément le président de la République retire l'avant-projet pour nous dire qu'il va lancer un débat sur les retraites. Ensuite, il nous parle de plan B. Personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. Et moi, je dis au gouvernement, on ne peut pas jouer avec le moral des Français. La retraite, ça n'est pas seulement une question technique. C'est le travail de toute une vie. C'est l'avenir d'une famille. C'est l'avenir de nos aînés qui se jouent. Il faut enfin de la clarté, enfin de la transparence. Nous avons des propositions à faire. Nous les avons faites, d'ailleurs. On demande au gouvernement de mettre sur la table un projet pour qu'on puisse en débattre sereinement, paisiblement, mais qu'on puisse avoir un vrai débat. Et nous, notre sentiment, c'est que si réforme des retraites il y a, et il faut qu'il y en ait une, cette réforme doit être faite non pas pour essayer d'installer une sorte de jardin à la française très administratif, très bureaucratique dans notre système de retraite, mais simplement pour pouvoir faire en sorte de garantir l'équilibre du système des retraites sans baisser les pensions de nos retraités et en faisant en sorte que l'État puisse se concentrer de nouveau sur ses missions régaliennes.
Karine Becker.
Finalement, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer le 5 décembre ? Appel à manifester. Il y a beaucoup de corps différents et pas seulement la SNCF et la RATP qui comptent effectivement manifester ce jour-là et peut-être même les jours suivants. Est-ce que vous imaginez un pays, là, maintenant, qui pourrait totalement se bloquer ? Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle vous songez ?
Mais de fait, c'est évidemment une possibilité parce que encore une fois, dans cette situation de très grande tension que nous traversons, il semble qu'il soit possible que les colères se rejoignent. Moi, je ne le souhaite pas, bien sûr. Je ne le souhaite pas, je ne l'encouragerai pas. Je crois que notre pays a besoin de sortir de cette espèce de spirale de la colère et que nous avons besoin de retrouver un débat démocratique et que le lieu de ce débat, ça n'est pas nécessairement le blocage et la confrontation. Mais je crois qu'il est urgent, encore une fois, qu'on sorte de cette confusion pesante dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Et est-ce que vous diriez que les Gilets jaunes, finalement, ont infusé partout dans la société, ont infusé dans beaucoup de catégories sociales différentes?
Non, ils ont été le symptôme, je pense, de la situation dans laquelle nous sommes. Ils ont été aussi le symptôme, il faut bien le dire, du fait que aujourd'hui, beaucoup de Français ont le sentiment que pour être entendu, il faut passer par la tension, passer par la confrontation et parfois par la violence. Et ça, c'est aussi une forme de défaite de notre démocratie. On devrait pouvoir avoir la certitude que notre voix est entendue, même quand cette voix est respectueuse des institutions et respectueuse du cadre normal de l'exercice démocratique.
Solène de Royer.
Depuis le début de l'année, le rythme des réformes semble s'être un peu ralenti. L'exécutif temporise sur un certain nombre de dossiers, notamment celui des retraites, mais pas seulement. Est-ce que vous diriez que la capacité à réformer d'Emmanuel Macron est compromise, entamée ? Est-ce qu'il serait à un tournant de son quinquennat ?
François-Xavier Bellamy.
C'est dans un quinquennat, on ne cesse de parler de tournant. J'ai toujours trouvé ça comme simple auditeur ou observateur étonnant. Je crois qu'il n'y a pas de tournant, d'autres tournants que ceux qu'on s'impose à soi-même. Moi, je ne crois pas, à titre personnel, je ne crois pas que la France soit irréformable. Je pense que ce qui manque à la France, c'est de la clarté et une forme de lucidité qui lui soit proposée. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais à l'instant. On ne se plaint que la France est irréformable que quand on n'a pas fait la pédagogie nécessaire de la réforme qu'on voulait lui proposer.
En l'occurrence, le candidat Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, a présenté les grandes lignes de cette réforme des retraites. C'est pas quelque chose de nouveau qui surviendrait au bout de 2 ans et demi.
Alain Juppé, en son temps, avait essayé également sur les régimes spéciaux.
Mais c'est une retraite qui est portée par un homme de droite, Jean-Paul Delevoye, pour un premier ministre qui vient de la droite, Édouard Philippe. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous est idéologiquement très éloigné.
Mais ça ne vous aura pas échappé que Jean-Paul Delevoye ne cesse d'être contredit par le premier ministre, par le président de la République. Aujourd'hui, qui peut savoir exactement à quoi ressemble la réforme des retraites que propose le gouvernement?
Moi, je ne le sais pas. Il y a une négociation jusqu'à l'été pour essayer justement d'éviter que ce soit le cirque dans toute la France.
Mais ce qui est très curieux, c'est que on termine une concertation avec Jean-Paul Delevoye. Cette concertation donne lieu à un pré-rapport. Ensuite, on engage des négociations. Personne ne comprend exactement de quoi il s'agit. Et à chaque instant, on entend parler de plan B, de clause du grand-père, qui est immédiatement démenti, puis immédiatement réaffirmé. Bref, il y a quelque chose de très anxiogène. Moi, je crois que ça n'est pas si compliqué que ça de dire aux Français, ce que le président de la République n'a jamais fait, que nous devons faire des économies avec notre système de retraite. Et au fond, tout le problème est là. Vous parlez de pédagogie en disant que ça a été fait, mais je ne le crois pas personnellement. Quand on dit aux gens qu'on va mettre un âge pivot, en réalité, on fait de cette réforme l'occasion de retarder l'âge du départ à la retraite, mais sans le dire aux Français. Il faut parler aux Français. Moi, je ne crois pas que les Français manquent de maturité. Ils sont tout à fait... Nous sommes capables de comprendre comment fonctionne notre État, ce qu'est la dépense publique que nous allouons à notre État, et nous sommes capables de faire les efforts qu'il faut si on nous les explique et si on nous les propose d'une manière un peu honnête et respectueuse de l'intelligence collective.
Midi 20, il est venu parler aux Français avec nous. L'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
C'est la tradition, François-Xavier Bellamy, votre portrait signé Karine Bécard.
C'est vrai qu'en mai dernier, vous êtes devenu un eurodéputé, mais vous restez, si vous me le permettez, un objet de curiosité. Parce que vous continuez à vous présenter comme un philosophe qui explique que rien ne le prédestinait à faire de la politique, qu'il s'est fait rattraper mieux que c'est elle qui est venue le chercher, ce qui est assez romantique. Alors qu'en fait, François-Xavier Bellamy, à 20 ans, vous étiez déjà au service de certains ministres, de Rachida Dati notamment, quand elle était à la justice. À 23 ans, vous êtes élu conseiller municipal, puis adjoint à la mairie de Versailles. Sans oublier, à 32, vous tentez de devenir député, député à l'Assemblée. Et puis la même année, vous lancez votre propre parti, Servir, parce qu'après le fiasco de François Fillon et l'élection d'Emmanuel Macron, vous vous dites que vous pourriez très vite avoir à rebondir. Donc reconnaissez que vous avez toujours cherché à exister, politiquement parlant, même à Bruxelles. Contre Sylvie Goulard, la candidate française à la Commission européenne, vos premiers coups de griffe n'ont pas tardé et ils vous ont permis de vous faire remarquer.
Des pressions ont été exercées sur beaucoup de nos collègues dans cette salle, en provenance de chefs d'État ou de gouvernements nationaux, pour écarter ces interrogations. Je suppose que vous n'en avez pas eu connaissance, mais ne croyez-vous pas que c'est le rôle du Parlement que de pouvoir vous permettre d'apporter les réponses qui pourraient garantir aux citoyens de nos pays qu'ils peuvent avoir pleinement confiance dans l'action de la Commission européenne ?
Quand Sylvie Goulard s'est fait auditionner en octobre dernier par les eurodéputés, c'est vous, François-Xavier Bellamy, qui avez eu l'autorisation de poser les toutes premières questions. Sans agressivité, c'est vrai, même s'il s'en dégageait de la férocité, en tout cas, vous nous auriez presque fait oublier vos 8,48%, le pire score enregistré par votre parti désormais, anciennement l'UMP, aujourd'hui les Républicains, lors d'un scrutin européen. Mais tout ça ne vous a pas empêché de souhaiter présider votre délégation qui comprend 8 eurodéputés, une bagatelle à l'échelle européenne. Donc, que pesez-vous vraiment, François-Xavier Bellamy, depuis François Fillon et jusqu'à aujourd'hui, la ligne libéralo-conservatrice, votre ligne versaillaise et catholique a précipité la droite vers ce désastre. Ce qui signifie que ceux qui à présent veulent rebâtir votre mouvement ont commencé certes à s'y engager, mais visiblement sans imaginer vous consulter.
Réaction, François-Xavier Bellamy?
Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, Oui, c'est vrai, ça peut paraître surprenant, mais je n'avais pas du tout imaginé, et il y a un an, vous le disiez, les choses vont vite, il y a un an, je n'aurais pas imaginé une seconde être devant vous ce matin comme député européen. Maintenant que j'ai accepté cette mission, je l'ai acceptée complètement et je vais la vivre complètement.
Mais vous avez toujours été attiré par la politique.
J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait, bien sûr, s'engager pour tenter d'être utile à son pays, et je crois que nous sommes dans un moment de crise, on le disait à l'instant, qui ne nous autorise pas à nous désintéresser de l'avenir de notre pays. Mais quand j'ai été élu en 2008 avec François de Mazières à Versailles, c'était une élection qui était très improbable, très inattendue pour moi. Je ne vais pas faire comme si je n'avais jamais touché à la politique. Je m'y suis engagé, j'ai assumé ce mandat d'ailleurs pendant les 10 dernières années avec passion, et j'espère avoir pu être humblement utile dans cette équipe municipale. Maintenant, je vais tenter de l'être au Parlement européen.
Mais mon vrai métier, c'est l'enseignement de la philosophie. Juste par hasard, quand même.
C'était après cette élection législative de 2017 qui avait donné lieu à une très belle mobilisation, et mon but était vraiment local. Mon but, c'était de faire vivre cette mobilisation dans la durée, quelle que soit d'ailleurs la suite des événements. Mais je voudrais terminer par contre sur un dernier point. D'abord, je ne crois pas que le score de l'élection européenne soit dû uniquement à la campagne de l'élection européenne. Nous avons fait une campagne qui, d'ailleurs, a été marquée par une vraie et belle dynamique, et beaucoup d'observateurs l'ont constaté, mais nous avons été pris en étau par la configuration actuelle du débat politique, par cette espèce d'opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui est mise en scène aussi bien, d'ailleurs, par Emmanuel Macron que par Marine Le Pen. Et nous n'avons pas su, c'est vrai, sortir de cet étau. La question pour nous maintenant qui est posée, c'est comment reconstruire cette famille politique. Mais je n'ai jamais tenté de faire prévaloir, et peut-être on reparlera des questions de laïcité, je n'ai jamais tenté pour ma part de faire prévaloir une ligne identitaire ou catholique. Je suis frappé d'être toujours reconduit à ces étiquettes. Je n'ai jamais caché mes convictions personnelles ou ma foi, par exemple, mais je crois que ça n'est pas un étendard en politique. Je n'en ai jamais fait un étendard en politique. Beaucoup d'observateurs m'y reconduisent, mais vous n'aurez jamais entendu de ma part un seul argument qui fasse d'une religion, par exemple, un argument d'autorité sur le terrain politique. Nous sommes ici comme des citoyens pour parler de l'avenir d'un pays et pour en parler avec notre raison. Et mon vrai métier et ma vraie passion, c'est l'enseignement de la philosophie. Et en philosophie comme en politique, je crois que c'est la raison qui doit s'exprimer pour faire naître un dialogue.
Et ça, pour le coup, nous aurons l'occasion justement d'ouvrir le chapitre de la laïcité, le chapitre de la reconstruction de la droite. Mais partons d'abord de votre occupation actuelle et donc de ce que vous faites comme eurodéputé au Parlement européen, puisque jeudi, les eurodéputés ont donné leur feu vert à Thierry Breton pour le poste de commissaire au marché intérieur. Là, pour le coup, vous félicitez Emmanuel Macron. Il a eu une bonne idée de proposer Thierry Breton pour ce poste-là ?
Oui, en tout cas, c'est le signe que nous ne sommes pas dans une situation d'opposition partisane un peu stérile. J'ai pu l'entendre parfois après les questions que j'ai en effet posées à Sylvie Goulard. Ces questions, je ne les ai pas posées parce que je voulais faire du tort à Emmanuel Macron. Je ne les ai posées que pour une seule raison, c'est parce que ces questions s'imposaient. Et d'ailleurs, la preuve en a été faite quelques jours plus tard, puisqu'on a appris que l'affaire des assistants parlementaires du Modem qui suscitait ces interrogations, a suivi son cours et qu'elle donne lieu désormais à des mises en examen. Donc il est très clair que ces questions étaient légitimes, mais nous n'avions pas pour objectif d'exclure, parce qu'il était nommé par Emmanuel Macron, le candidat français à la Commission, et nous avons considéré que Thierry Breton était, au terme de son audition, extrêmement compétent et tout à fait qualifié pour relever le défi de ce portefeuille important sur la question du conflit d'intérêts et sur la stratégie
éventuelle.
Il a fait un choix très clair, et je trouve d'ailleurs, je me permets de le dire, moi je suis professeur de philosophie, donc je ne suis pas lié au même type de parcours que celui de Thierry Breton, mais j'ai trouvé ce choix très courageux. Il a vendu avant même de venir à l'audition, qui était très incertaine, puisque, comme toutes les auditions, elle était le préalable au vote de la commission.
Courageux, quand on empoche 46 millions d'euros, c'est un geste de courage, enfin, mais qui est relatif quand même, François-Xavier
Bellamy. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis professeur de philosophie, c'est des montants qui ne me parlent absolument pas, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça courageux d'avoir pris l'initiative de faire ce choix avant même le choix de la commission parlementaire. Il aurait pu dire, au cas où je serais investi, je me séparerais de toutes mes actions, je quitterais tous mes mandats. Il l'a fait avant. Et c'est un geste qui mérite d'être signalé parce que je crois qu'il le met en situation de pouvoir, de manière transparente, montrer qu'il n'y a plus de risque de conflit d'intérêts avec son ancienne entreprise.
Vous le voyez comme un commissaire PPE, ou donc votre famille politique, ou comme un commissaire Renew, c'est-à-dire macroniste ?
Je le vois comme un commissaire compétent. Et moi, je n'ai jamais cru que les logiques d'étiquette devaient prévaloir sur la qualité des personnes qui vont ensuite agir pour porter les dossiers. Je crois qu'il a l'expérience, l'expertise nécessaire pour parler d'industrie. J'ai eu l'occasion de lui poser une question qui me paraît décisive sur l'évolution de la stratégie européenne en matière industrielle, parce que pendant très longtemps, notre Europe s'est contentée d'appliquer des normes et de faire peser des réglementations. Et ainsi, nous avons vu petit à petit notre industrie se dévitaliser et nos emplois partir dans des régions du monde qui ne respectent pas nos règles. Il est temps de sortir de la naïveté. Et sur cette question, je suis sûr que Thierry Breton a la lucidité nécessaire pour agir.
Sur l'Europe encore, Solène de Royer.
Oui, Karine Bécart l'a dit tout à l'heure, LR n'a obtenu que 8 députés hein, sur les 182 membres du PPE, mais vous n'avez pas répondu à sa question. Comment peser dans ces conditions?
Eh bien, c'est un vrai défi et c'est à ça que je m'attache comme chef de délégation au Parlement européen depuis plusieurs mois maintenant. Comment peser? Eh bien, au fond, d'abord, je crois que cette campagne européenne que nous avons faite, elle était lucide. Nous avons dit la vérité aux Français, alors que nos concurrents, ceux qui ont fait de meilleurs scores que nous, ont fait reposer leur campagne sur des illusions qui se sont très vite dissipées.
Vous pensez à quoi?
Le Rassemblement National avait passé la campagne à dire « Nous allons construire la grande alliance qui va prendre le pouvoir en Europe et nous allons changer l'Europe et c'est pour ça que nous ne voulons plus en sortir ». La vérité, c'est que le lendemain de l'élection, ils se sont retrouvés comme auparavant dans un groupe très minoritaire et totalement marginalisé. Et de la même manière, La République En Marche est arrivée avec beaucoup d'arrogance dans un groupe lui aussi minoritaire dans lequel elle s'est trouvée un peu marginalisée par le fait qu'elle est arrivée en prétendant changer les choses, en prétendant renouveler l'Europe. Alors qu'en réalité, je crois que ce qui paye beaucoup au Parlement européen, c'est d'arriver avec sérieux, avec humilité, de susciter la confiance de ses partenaires. Nous sommes au sein
donc
du premier groupe.
Quels sont vos dossiers? Parlez concrètement. Vous allez pousser
quel type? Concrètement, par exemple, c'est effectivement important. Nous sommes le premier groupe au Parlement européen et dans ce premier groupe, nous allons tout faire pour peser. Je suis par exemple en commission de l'industrie et j'ai été chargé par mon groupe de la négociation sur le Fonds européen de défense. C'est un fonds absolument décisif pour l'industrie de défense française et puis aussi pour la vision française de la stratégie en matière de défense. On voit très bien aujourd'hui que les tensions internationales nous obligent à développer une vraie autonomie stratégique européenne en matière de défense. J'ai gagné d'une certaine manière la possibilité de mener cette négociation face à d'autres candidats qui venaient des pays de l'Est, qui venaient de la Pologne ou de la Roumanie, qui n'ont pas du tout la même vision que nous sur ces sujets. Mais je crois que si j'ai été choisi pour cette négociation, c'est parce que justement en travaillant avec sérieux, nous pouvons susciter la confiance, nous pouvons recueillir l'adhésion et nous pouvons avoir une vraie stratégie d'influence. C'est ce qui a pu manquer à la France dans les institutions européennes au cours des dernières années. Et je crois qu'aujourd'hui, les premiers mois de notre mandat sont assez encourageants parce qu'ils me montrent que nous ne sommes pas condamnés à rester spectateurs, que nous ne sommes pas condamnés à regarder passer les balles. Vous avez rappelé le rôle que j'ai joué, que nous avons joué avec Geoffroy Didier aussi dans l'audition de Sylvie Goulard puis de Thierry Breton. Ce rôle important, influent, je crois, et j'espère qu'il pourra être utile à la France et à l'Europe dans les années qui viendront.
Et puisque Thierry Breton parlait de l'avenir de la téléphonie mobile, de la 5G, voire de la 6G. Il y a un téléphone allumé sur ce plateau. Il grésille et donc je voulais juste vous le signaler pour régler le problème.
Quel
je le dis en souriant, mais dans l'actualité...
Magnifique transition.
Ouais, subtil.
Merci.
Très subtil.
Merci à tous. Mais François-Xavier Bellamy, dans l'actualité aussi de l'Europe cette semaine, la future présidente de la Commission faisait mercredi une annonce. Elle a demandé de rebaptiser le portefeuille du commissaire grec qui inclut notamment les questions migratoires. Il faudra parler désormais de la promotion et non plus de la protection du mode de vie européen. Les mots sont symboliques, vous le savez mieux que quiconque. Qu'avez-vous pensé de ce changement de vocable? Non, plus protection, mais promotion.
Ce changement me va très bien. Peut-être pour resituer les choses dans le contexte, il y a eu un débat que j'ai trouvé pour ma part assez improbable autour de l'expression de mode de vie européen. Pour la première fois, l'Europe assume d'avoir un mode de vie. Je n'aime pas beaucoup l'expression mode de vie, parce que mode de vie, ça peut désigner, vous parliez de téléphone portable, la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à réformer, à transformer dans notre mode de vie.
Ça en fait
Mais
partie.
On peut parler, si vous voulez, d'une certaine manière d'habiter le monde, d'une certaine manière de concevoir le monde, d'une certaine manière de se lier les uns aux autres. C'est ce qui fait la civilisation européenne. J'ai défendu cette idée.
Quoi de commun entre le mode de vie, le vôtre, par exemple, à Versailles, et celui d'un paysan bulgare?
Eh bien, nous sommes marqués précisément par un héritage commun. Il est très évident que du point de vue linguistique, du point de vue culturel, du point de vue de la littérature, de la philosophie, il y a évidemment une unité de l'Europe que d'ailleurs le monde
entier... Il y avait de la religion derrière aussi, l'idée de la religion commune quand même. Faut pas être... Je veux dire, le mode de vie, c'est un peu plus que simplement...
C'est surtout nos racines chrétiennes, en fait.
Ça, on peut le dire, mais après, si on le pense...
C'est incroyable j'ai toujours défendu pendant la campagne le fait que l'Europe était une civilisation, et comment ne pas le voir, qui était faite, effectivement, d'une pluralité de traditions. La tradition gréco-latine Et comment ne pas le voir? Je suis professeur de philosophie. Il s'est passé quelque chose au 5e, au 4e siècle grec qui a marqué l'Europe pour la suite et pour les siècles qui ont suivi. La tradition gréco-latine est fondamentale dans notre manière de voir le monde et de parler ensemble aujourd'hui. Et il y a aussi, bien sûr, l'héritage de la tradition judéo-chrétienne. Je n'ai jamais parlé uniquement des racines chrétiennes de l'Europe, mais comment ne pas reconnaître qu'elles ont
en profondeur irriguée...
C'était juste une question, mais comme vous
irriguée,
dites, en fait, c'est fondamental. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire la promotion?
Eh bien oui, c'est nécessaire d'en faire la promotion.
Alors, pourquoi?
Et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que nous passons notre temps à parler de vivre ensemble et nous ne cessons de voir le vivre ensemble se fracturer, se fissurer. Nous ne cessons de voir notre société contestée dans ce qui fait le lien qui nous attache aux autres. Et donc oui, il faut. Et c'est la raison pour laquelle protection me paraît moins bien que promotion. Vous
parliez
de conservatisme tout à l'heure. François-Xavier
Bellamy, parce que vous récusez totalement la lecture des questions de mode de vie au quotidien, en termes de lutte des classes, pour le dire rapidement. Quoi de commun entre la vie de quelqu'un qui est démuni et quelqu'un qui est immensément riche? C'est peut-être ça le véritable fossé, plutôt que d'imaginer qu'il y a quelque chose de commun à tous ceux qui vivent dans l'espace de l'Union européenne, par différence avec ceux qui en sont exclus.
Ça, c'est magnifique. Là, on est vraiment au cœur d'un débat fondamental. Effectivement, une vision marxiste des choses ou une perspective classiste, pourrait-on dire, voudrait qu'il n'y ait rien de commun entre le plus modeste et le plus aisé. Moi, je crois pour ma part qu'il y a quelque chose en commun qui s'appelle précisément ce qu'on pourrait appeler des biens communs, une langue, une capacité de parler les uns avec les autres, de confronter nos raisons, et que la démocratie suppose de passer d'une logique de confrontation et de combat à une logique de travail et d'échange pour pouvoir faire en sorte, par exemple, de construire une société plus juste, une société où la solidarité soit plus effective. Je ne dis pas qu'il faille en rester à l'idée que les inégalités sont normales, évidentes, et qu'il faudrait s'y résigner. Mais la question, c'est comment faire en sorte de construire une société plus juste. Certains diront que c'est par la confrontation et le combat. Moi, je dis que c'est par le dialogue qui est précisément au cœur de l'intuition européenne, au cœur de ce qui est né précisément dans la Grèce antique, dans la Rome de l'Antiquité et dans la tradition judéo-chrétienne, qui nous dit précisément qu'il y a une dignité égale des hommes et des femmes, une dignité égale des personnes humaines. Ça, c'est pour le coup ce que l'Europe a de meilleur à dire.
Ça, vous le trouvez au 5e siècle avant Jésus-Christ ?
Mais on le trouve
quand
dans...
les femmes n'avaient pas le droit de vote, qu'il y avait des esclaves,
non,
et
je
que
dis
les
que c'est...
étrangers non plus ne participaient pas à la vie de la cité.
Je dis que c'est ce qui a mûri progressivement dans l'esprit européen tout au long de son histoire. Et que bien sûr, nous avons encore, et aujourd'hui bien sûr, beaucoup de chemin à faire pour qu'une telle intuition trouve son effectivité. Mais ça suppose précisément de s'appuyer sur ce qu'est l'Europe. Et encore une fois, l'Europe pendant très longtemps, et c'est ce qui fait la crise qu'elle traverse aujourd'hui pour une bonne part, nos pays pendant très longtemps ont voulu se prendre pour un universel abstrait. On refusait de reconnaître qu'ils avaient une singularité et que cette singularité méritait d'être partagée. On a élu un président de la République qui nous a dit « il n'y a pas de culture française ». Mais moi, je crois que ce déni de réalité, l'idée qu'il n'y a pas de civilisation européenne, il l'a dit, pardon,
non.
Excusez-moi, il l'a dit, chacun pourra le vérifier, il a utilisé ses mots, il les a même répétés.
J'avais dit qu'il n'y avait pas de culture française.
Et il a dit, il n'y a pas une culture française. Alors, j'invite chacun à vérifier, ce sera très facile à faire. Ce que je crois intéressant, mais je ne le reproche pas à Emmanuel Macron, ça n'est pas lui qui est en cause. Il était, quand il prononçait cette phrase, le symptôme d'un déni de réalité qui date de bien avant lui et qui, d'une certaine manière, traverse notre société.
Est-ce que vous considérez, que globalement, dans les prises de parole d'Emmanuel Macron ou dans la vision de la société ou de l'avenir qu'il peut mettre en avant, est-ce que vous avez l'impression qu'il est radicalement différent de vous ou de ce que la droite ou ce que la nouvelle version de la droite peut dire aux citoyens? Est-ce que là-dessus, il y a un véritable clivage entre lui, élite mondialisée, je ne sais quoi, c'est à vous de le dire, pas à moi. Est-ce que vous pensez, vous?
François-Xavier Bellamy.
Il y a, je le crois, un vrai clivage. Ce qui ne veut pas dire que encore une fois, pour ma part, je n'ai jamais cru à la fin des clivages. Je crois que la démocratie suppose de reconnaître que tout le monde n'a pas la même vision des choses et que justement un débat est nécessaire. Mais je crois que avec Emmanuel Macron, nous n'avons pas la même vision des choses. Je dis je crois parce que le premier point qui me paraît problématique, c'est qu'Emmanuel Macron ne se prononce pas sur ces enjeux fondamentaux d'une manière qui soit assez claire. Il a dit. Il n'y a pas une culture française, mais simultanément, effectivement, il donne parfois le sentiment d'assumer, au contraire, une autre vision des choses. On a l'impression qu'au fond, il n'a pas choisi. Et sur un sujet aussi fondamental que celui qu'on évoque à l'instant, Emmanuel Macron est-il, par exemple, le défenseur d'une société multiculturelle, communautarisée, le défenseur d'une société tel que par exemple un Trudeau au Canada peut l'incarner. Emmanuel Macron est-il celui qui dit que le voile n'est pas son affaire, par exemple, et que ça n'est pas une question qui se pose? Ou bien Emmanuel Macron est-il le défenseur, comme Jean-Michel Blanquer, comme Jean-Michel Blanquer, d'une vision plus universaliste, plus républicaine? On ne le sait pas.
Et vous considérez qu'il a à se prononcer là-dessus et qu'il y a une urgence?
Ah, mais bien sûr.
Et que c'est un vrai sujet dans la...
C'est un défi fondamental. Emmanuel Macron est-il celui qui lance le débat sur l'immigration en France ou celui dont les députés européens votent des amendements pour ouvrir les ports de manière inconditionnelle aux ONG au Parlement européen? Emmanuel Macron est-il celui qui défend précisément cette unité de la société autour d'une histoire commune, ou bien celui dont les députés européens ont contesté l'idée du mode de vie européen?
Donc vous dites qu'il bute sur lui-même, sur son en même temps, en fait?
Moi, je ne crois pas au en même temps. Je pense que le en même temps est une forme de dévitalisation de la démocratie.
Et donc, c'est à cause de ça qu'il n'y a plus de cap, selon vous?
C'est à cause de ça que le débat est si confus et qu'on a tant de mal à avoir une perspective claire. La démocratie, c'est comme la vie, ça ne peut pas être en même temps. La vie, nous dit Kierkegaard, elle se sculpte à mesure des choix que nous faisons. La vie, c'est ou bien, ou bien. Eh bien là, sur ces questions-là, il faut choisir d'une certaine manière. Sur les questions migratoires, c'est ou bien, ou bien. On ne peut pas simultanément dire que les Italiens sont la lèpre nationaliste parce qu'ils refusent d'accueillir des migrants, et puis ensuite nous expliquer qu'il y a un vrai sujet avec l'immigration.
Donc vous plaidez pour un grand discours du président de la République sur ces questions de laïcité?
Moi, je voudrais simplement demander au président de la République d'être clair sur ces sujets, et ces sujets sont fondamentaux, et je voudrais lui demander simultanément d'être courageux sur ces sujets, parce qu'on en a besoin. Quand Jean-Michel Blanquer, je le redis, a expliqué sur votre antenne que le voile ne lui paraissait pas souhaitable et qu'il n'était pas en tous les cas souhaitable d'en faire la promotion à l'intérieur de l'espace scolaire, eh bien, je n'ai pas entendu Emmanuel Macron défendre son ministre, alors même qu'il était mis en cause d'une manière très violente, qu'il a été mis en cause dans cette manifestation d'une manière très violente et qu'il a été menacé par Yacine Bellatar sur l'antenne de vos confrères de RFI. Je n'ai pas entendu le président de la République défendre son ministre sur ce sujet et je crois que sa parole aurait été nécessaire.
En l'occurrence, pour rappeler ce qu'a dit Emmanuel Macron au sujet du voile dans les services publics, il a dit la chose suivante: il y a un devoir de neutralité dans les services publics. Quand on éduque nos enfants, je cite le président de la République, on demande qu'il n'y ait pas de signes religieux ostentatoires. Après ce qui se passe dans l'espace public, c'est pas l'affaire de l'État ou du président de la République. Est-ce que, d'après vous, il faut légiférer, interdire le voile dans l'espace public, pour le dire très simplement?
Non. D'abord, la question n'est pas forcément seulement celle de légiférer. Le sujet, c'est aussi la manière dont nous réagissons à ce qui est en train de se produire en ce moment, à cette espèce de sécession intérieure que nous voyons monter. J'ai regardé, comme beaucoup, avec stupeur, avec inquiétude, cette manifestation contre l'islamophobie, qui n'était rien d'autre que l'expression, en réalité, de la montée d'un communautarisme assumé, revendiqué, et d'un communautarisme qui s'exprime d'une manière violente.
Communautarisme, définition, François-Xavier Bellamy?
Communautarisme, quand vous prétendez que l'expression politique doit avoir pour but de défendre les valeurs ou les droits de votre communauté. Alors que je crois, et on revient au débat qu'on évoquait tout à l'heure, moi je crois que la politique n'a qu'un seul et unique but, et qu'un seul et unique sens, c'est de défendre le bien commun, celui qui nous relie, quelles que soient précisément nos conditions sociales, ou bien nos appartenances de conviction ou de religion.
Justement, on a vu Xavier Bertrand et le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, demander au ministère de l'Intérieur d'interdire les listes communautaires aux élections municipales. Proposition de loi pour interdire, dit Bruno Retailleau, tout élément direct ou indirect relevant de discours contraires au principe de la souveraineté nationale. Et comme exemple, il a pris le fondamentalisme islamique. Pas le terrorisme, le fondamentalisme. On aimerait vous demander, par exemple, donc, est-ce qu'il faudrait interdire les listes indépendantistes en Corse?
Mais on peut pas tout confondre. Enfin, vous voyez, c'est pas le même sujet.
En l'occurrence, qu'est-ce qui atteint la souveraineté nationale davantage, par exemple, que ceux qui souhaitent l'indépendance?
Non mais encore une fois, on peut pas tout confondre. Il y a dans l'irrédentisme, il y a une idée politique que je ne partage absolument pas, qui me paraît effectivement contraire à l'unité de la République, mais qui est exprimée par des gens qui pensent que leur région ne fait pas partie de la nation française. Ça n'a rien à voir avec le fait que des gens qui se reconnaissent comme des citoyens français veulent que la France évolue dans le sens de leur communauté religieuse.
C'est les indépendantistes. Les royalistes, par exemple, Non mais attendez. Ils doivent se présenter ou pas?
Ali par Badou, pardon.
Ils sont anti-républicains.
Non mais pardon, Ali Badou. Enfin, c'est.
Ah non mais ils bafouent aussi les principes de la République.
Quand on est royaliste, on est par définition anti-républicain.
Vous êtes sérieux?
Ah mais je suis extrêmement sérieux.
Vous croyez que la République aujourd'hui est menacée par les royalistes?
Eh ben dans ces cas-là, soyez clair. Dites liste musulmane. Au lieu de dire liste communautaire ou liste anti-républicaine.
Une liste musulmane en tant que telle qui se présente à une élection pour dire que son programme c'est l'islam me paraît être contraire à ce que devrait être la politique dans une république.
Alors vous en avez déjà repéré ou pas?
Les choses comme elles sont, regardons la réalité en face. Aujourd'hui, ce ne sont pas des listes royalistes qui menacent la république dans notre pays.
Non mais vous parlez de principe ou pas?
Ce qui est en jeu, c'est que nous voyons monter des revendications communautaires qui, pour le dire clairement, viennent effectivement d'un islam fondamentaliste qui gagne du terrain dans notre pays et que c'est sur cette question que nous devons nous battre. Moi, je ne veux pas qu'en France, et ça c'est un modèle qui n'est pas le nôtre, c'est un modèle anglo-saxon qui existe par ailleurs. En Angleterre, par exemple, il y a des tribunaux qui peuvent rendre la justice selon la charia. Je ne veux pas de ça pour mon pays.
Personne n'a émis l'idée dans l'espace public. Nathalie Saint-Cricq.
Plus généralement, Laurent Wauquiez avait une intuition, c'était que ce serait justement ces questions identitaires qui seraient au cœur du débat chez les Français, maintenant et jusqu'à la présidentielle. Manifestement, il s'est peut-être un peu trompé, ou même beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez des gilets jaunes, on avait l'impression que c'était l'économique et le social qui étaient déterminants. Est-ce que vous faites toujours le pari du sociétal, de l'identitaire, dans les deux ans qui viennent, comme étant une clé de compréhension des Français, une clé pour le vote et l'élection du futur président?
François-Xavier Bellamy.
Moi, je ne crois pas une seule seconde que la politique puisse se résoudre à des paris tactiques sur les sujets.
Non, c'est pas des paris
tactiques.
C'est en gros, quelle est la vague d'inquiétude chez les Français
sur bien dans le micro, Nathalie.
Sur quoi les choses s'offront? Je suis pas dans un truc tactique, genre est-ce qu'il faut parler du voile, Non. Est-ce que vous avez le sentiment, le ressenti que vous avez des Français? Est-ce que c'est plutôt sur un problème de pouvoir d'achat ou de mal-être à cause des services publics, comme vous l'avez développé tout à l'heure, ou alors ça se fait sur une peur de la dissolution de l'identité française?
Je crois que ce qui habite les Français aujourd'hui, et je le vois en allant sur le terrain depuis la campagne et même depuis l'élection, j'ai régulièrement l'occasion de me déplacer partout en France, ce qui habite les Français aujourd'hui, c'est le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus leur destin, qu'ils sont condamnés à subir l'évolution d'un monde et l'évolution d'un pays qui se fait sans qu'ils puissent agir, et qu'ils sont le sentiment qu'ils sont condamnés à subir d'une certaine manière, et que cette impuissance collective se traduit par l'impuissance de l'État. Et l'impuissance de l'État, pour le coup, elle se joue aussi bien dans le délitement des services publics, dans la fragilité de l'État sur le terrain, dans l'incapacité, par exemple, de notre école à assurer une véritable égalité républicaine, à transmettre à tous les enfants les éléments d'une culture commune, que face à la montée de ces communautarismes, l'État semble être défié en permanence.
Donnez-nous des exemples concrets, en l'occurrence, de ce que vous appelez encore une fois le communautarisme, et on pourrait dire... Bon, qu'il s'agit de la religion musulmane, tout simplement, où s'arrête l'expression de pratiques culturelles, religieuses, qui vous paraissent acceptables, et où commence ce que vous appelez la sécession, qui est inacceptable. Donnez-moi un exemple concret.
Quand vous avez monsieur Mohamed qui, en plein Paris, fait crier à la Akbar dans une manifestation. Qui fait crier Allahu Akbar dans une manifestation au cœur de Paris, je crois que là, on est en train de voir évoluer l'expression
démocratique. C'est interdit par la loi ?
C'est pas interdit par la loi, et encore une fois, c'est là où...
Ce qui n'est pas interdit par la loi, dans un état de droit, est autorisé.
Mais la question n'est pas seulement de savoir si c'est autorisé ou interdit, la question est de savoir ce qui est en train de se passer et de comprendre ce qui est en train de se jouer. Et effectivement, si on voit poindre la manière dont une religion se transforme en revendication politique.
Oui, par exemple, quand des catholiques manifestent contre le mariage pour tous, contre la PMA, est-ce que ça, c'est pas une expression religieuse
et là
qui
aussi,
se transforme en
expression
politique?
On est vraiment au cœur de ce que Pascal Bruckner appelait la nuit de l'équivalence. J'ai manifesté contre le mariage pour tous, je m'oppose à la PMA. Trouver un seul argument religieux dans mon propos, je le fais pour
raisons je ne parle pas de vous.
Rationnelles.
D'autres l'ont fait.
Au nom
de leurs convictions religieuses.
Mais je ne crois pas que ce soit le cœur du ressort. En tous les cas, je n'ai vu aucun catholique venir dans l'espace public en disant « Je veux que l'Évangile soit désormais considéré comme un programme politique. Je me présente parce que l'Évangile est mon programme politique. » L'Évangile n'est pas un programme politique. Et d'ailleurs, je me permets de le dire. Ça nous permet de revenir aux racines de l'Europe. Je me permets de dire que la laïcité, C'est un mot qui vient précisément de cet héritage culturel qui nous vient de la tradition judéo-chrétienne. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une prescription qui vient précisément de l'intérieur de la tradition chrétienne. Et il y a au fond, au cœur de notre modèle, quelque chose comme une
c'est
séparation.
C'est pour ça qu'en 1905, ça s'est si bien passé, les débats autour de la loi de séparation des Églises et de l'État.
Toute l'histoire de l'Europe a été marquée par le conflit entre les papes et les empereurs, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Mais il n'en reste pas moins que ce conflit est l'expression de la progression, de la maturation, du sens de la distinction du spirituel et du temporel. Et nous ne devrions surtout pas faire l'impasse sur le fait qu'aujourd'hui, l'islam constitue un défi pour nos sociétés parce que cette distinction
l'islam.
Ne fait pas partie de l'islam.
Pas les pratiques les plus rigoristes, pas les intégrismes ou le terrorisme, l'islam en tant que tel.
Mais l'islam en tant que tel suppose une réponse spécifique. Je pense qu'il faut évidemment construire une société dans laquelle il soit possible, et tant de musulmans le montrent, de croire à l'islam en étant en même temps un citoyen parfaitement respectueux des institutions républicaines. Une immense majorité des citoyens musulmans de notre pays le montrent aujourd'hui. Mais malgré tout, l'islam pose un défi particulier à une société comme la nôtre parce que l'islam ne connaît pas cette dimension de la laïcité qui a mûri au sein de la civilisation européenne. Et donc, il faut que nous puissions inventer les réponses et que nous puissions les apporter
mais
aujourd'hui.
Quelle réponse, justement, François-Xavier Bellamy? Soyez concrets, on fait quoi?
Mais c'est la raison pour laquelle je soutiens évidemment la proposition de loi proposée par Bruno Retailleau pour interdire les listes communautaristes.
Mais comment vous faites pour les repérer, ces listes communautaristes? Parce que là, vous venez de dire à l'instant, voilà, les candidats qui se revendiquent de l'évangile, il n'y en a pas. Vous croyez sincèrement qu'il va y avoir des candidats qui se revendiquent de l'islam? Vous pensez sincèrement que ça va être aussi limpide?
Mais non, alors lesquels? D'abord, il y a eu à l'élection européenne une liste qui s'est présentée comme étant une liste musulmane.
Oui, mais
défendant.
Vous avez écouté leur programme. Enfin, je veux dire, ils mettaient pas l'islam. Enfin, les lois de l'islam n'étaient pas les préceptes de l'islam n'étaient pas au-dessus des lois de la République.
C'est défini à partir de sa dimension confessionnelle. Donc ça change
quand
même un peu la donne.
Chrétien démocrate,
et la deuxième chose, c'est que d'ailleurs, je lisais chez certains de vos confrères des enquêtes passionnantes sur la manière dont les élections municipales se préparent dans un certain nombre de territoires de notre pays. Il y a évidemment des pressions de nature communautaire qui sont exercées aujourd'hui sur des élus ou des logiques communautaires qui entrent dans la composition des listes électorales. Je crois que c'est là-dessus que nous devons apporter une réponse. Et on ne peut pas simplement balayer d'un revers de la main comme si c'était anecdotique la situation.
Je vous pose des
actuelle.
Questions de principe et en l'occurrence, on voit qu'il n'est pas question de principe, mais d'une religion particulière.
Mais
vous ne pouvez pas parler de liste communautaire.
Bien sûr que ça concerne toutes les confessions, évidemment, mais aujourd'hui je ne vois pas de liste qui se présente en disant que la Torah doit devenir un programme politique, je ne vois pas de liste qui se présente en disant que l'Évangile doit devenir un programme politique, et je ne crois pas qu'effectivement le défi qui se pose à l'unité de la République ce soit la montée en puissance du royalisme triomphant.
Enfin, donc c'est pas une question
absurde
principe.
De ne pas...
Concernant Nathalie les municipales, on voit par exemple des cas comme Toulouse, où le maire sortant, M. Moudenc, qui était Les Républicains, va finalement être soutenu par La République En Marche au risque de créer une forme de confusion. Est-ce que vous trouvez ça souhaitable, cette espèce de merveilleux accord entre tout le monde? Est-ce que justement c'est le triomphe des idées plutôt que de la petite politique politicienne?
Jean-Luc Moudin, qui est toujours un maire Les Républicains, et d'ailleurs il nous a apporté son soutien pendant l'élection européenne. Il avait fait l'objet de pressions très intenses de la part de La République En Marche, qui lui promettait d'avoir un candidat contre lui s'il osait m'apporter son soutien. Je lui ai été très reconnaissant du courage avec lequel, malgré cette pression, il s'est exprimé. Aujourd'hui, si La République En Marche choisit de le soutenir, pour ma part, je le perçois plutôt comme un signe de faiblesse de ce parti politique qui n'a pas d'enracinement local et qui, par conséquent, est d'une certaine manière obligé de se rallier à des maires en place.
Vous trouvez que c'est... Est-ce que ça clarifie les choses qu'ils l'acceptent et qu'ils disent qu'en gros, qu'ils marchent main dans la main comme Christian Estrosi avec un certain nombre de...
Ouais, de toute façon,
ça embrouille pas la tête
quand,
des gens.
Quand un parti choisit de vous soutenir, vous n'avez pas d'autre choix que de reconnaître que ce parti a choisi de vous soutenir.
Ah ben, vous pouvez refuser un soutien, je pense, quand même.
Il y en a.
Si ce parti a choisi de vous soutenir, c'est un fait qu'il exprime de son côté. Enfin, en tous les cas, je l'interprète, je vous le dis, comme
une
forme de talon d'Achille
de
La République
aussi.
En Marche qui n'a pas d'enracinement local, qui n'a pas d'implantation locale. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle? Eh bien, c'est qu'il avait, avec beaucoup de charisme, réussi à prendre une place importante dans la campagne et qu'ensuite, au second tour, il a été le candidat qui, face à Marine Le Pen, se présentait comme le seul capable de gérer l'avenir de la France. Aux élections européennes, il a fait exactement la même chose. Et on a vu son affiche fleurir partout en parallèle de celle de Nathalie Loiseau. Mais ça ne fonctionne pas aux élections municipales.
C'est le contraire, là.
Il n'y aura pas Emmanuel Macron candidat dans 36 000 communes de France. Il n'y aura pas Emmanuel Macron qui sera en duel avec Marine Le Pen dans 36 000 communes de France. Et donc cette situation, évidemment, de fragilité de La République En Marche, la condamne sans doute à passer par ce genre de tactique.
On a parlé de Toulouse. Parlons de Versailles, où La République En Marche a l'intention de soutenir la liste d'hiver droite de François de Mazières. Vous êtes sur cette liste, mais LRM semble embarrassé par votre présence. Est-ce que vous allez quitter cette liste ou pas?
Moi, j'en ai parlé très récemment avec le maire, parce qu'il y a eu plusieurs articles de presse sur ce sujet. Nous vivons une aventure magnifique à Versailles depuis 12 ans maintenant, puisque François de Mazières a constitué autour de lui, en 2008, une liste avec des gens qui venaient de sensibilités différentes de la droite et du centre, mais qui n'étaient pas une liste d'étiquettes. À l'époque, d'ailleurs, c'était une grande singularité de cette équipe municipale, et il a su faire triompher cet esprit qui a perduré jusqu'à maintenant. Moi, je ne voudrais pas que...
Vous n'êtes pas rancunier, puisque les Versaillais ont voté majoritairement pour Nathalie Loiseau et la liste d'Emmanuel Macron. Malgré tout, c'est chez vous. Ils ont préféré La République En Marche à votre liste.
Enfin, on a quand même fait 27% et j'ai été très touché du soutien que les Versaillais
nous ont apporté.
Pour la
première fois de l'histoire depuis Louis XIV.
Mais vous restez sur la liste ou pas?
Il reste quelques minutes.
Moi, je suis là vraiment pour être utile. Je ne voudrais pas que ma présence constitue un problème et vienne perturber les
équilibres. C'est-à-dire que si En Marche exige que vous soyez plus là, vous pourriez partir?
Non, alors pour le coup, je ne suis pas du tout soumis à quelque pression que ce soit. La seule pression que je recevrai, mais ça n'est pas une
c'est
pression,
celle du
la seule
maire,
chose
et donc
qui compte pour moi, c'est le choix que fera François de Mazières. Et si lui souhaite avoir une liste vraiment locale, avec simplement des personnalités engagées dans la vie locale et non pas dans la vie politique nationale, je le comprendrai très bien et je serai tout à fait prêt à ne pas poursuivre si ça devait poser problème. Ça n'enlèvera rien au fait que je reste profondément attaché à cette ville. Non, c'est de la loyauté. Je dois beaucoup à François de Mazières. Je sais que il est un excellent maire. J'espère et je suis sûr qu'il sera réélu et qu'il continuera d'agir pour la ville. Et moi, tout ce que je peux faire de mieux, c'est d'être à la place la plus utile pour lui dans les années qui viendront.
Vous êtes
allé voir J'accuse de Roman Polanski ou vous avez des états d'âme par rapport à la nature de l'auteur du film? Vous irez le voir?
Je n'ai pas été voir ce film. J'ai malheureusement trop peu de temps pour aller au cinéma. Mais pour revenir sur le cœur du sujet qui est la situation d'une part des violences faites aux femmes et de ce grand débat qui traverse la société d'aujourd'hui et d'autre part la question de la liberté d'expression et de création, parce que c'est deux débats qui sont mêlés d'une manière assez confuse. D'abord, je crois et je suis très heureux de ce que la ministre exprime aujourd'hui dans le JDD, que nous devons tout faire pour que la justice en France prenne mieux
Nicole
en compte
la garde des Sceaux.
Les violences qui sont faites à l'égard des femmes, et notamment les violences conjugales. Je suis effondré de voir, et c'est peut-être aussi un symptôme de la fragilité de la civilisation ou d'une forme de retour de la violence ordinaire. Je suis effondré de voir à quel point les femmes sont aujourd'hui victimes de violences, et ça ne peut pas ne pas...
Aujourd'hui, c'est pas ancré justement dans la culture. Il n'y a pas une culture de la violence faite aux femmes.
Moi, je ne le crois pas. Je pense que la violence est toujours ce qui surgit quand la culture, au contraire, recule. Et je crois que la barbarie est toujours ce qui réapparaît quand la civilisation s'effondre. Et dans cette forme de barbarie...
Les chiffres donnent une constance depuis 20 ans, depuis qu'on les connaît. Avant, on appelait ça drame conjugal. Mais manifestement, il n'y a pas une explosion contemporaine. C'est simplement qu'on en parle et qu'on le sait.
Il me semble, en tous les cas, que ça veut dire que nous avons besoin d'être plus civilisés et d'être mieux civilisés. Et il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet, parce que c'est aussi un sujet éducatif majeur, bien sûr.
Et sur J'accuse.
Mais pour le reste, ce qui me gêne beaucoup, par ailleurs, dans le débat, c'est que, d'abord, je crois que c'est la justice qui doit faire le travail de sanctionner et de punir. Et aujourd'hui, on en arrive à une forme de justice immanente à l'intérieur de la société qui ne se préoccupe plus du principe du contradictoire. Même les plus grands criminels ont droit à des avocats, même les plus grands criminels ont droit de faire appel. Et c'est dans la justice que la plainte devrait passer. Je sais qu'il y a des efforts à faire sur ce point. Les Républicains, d'ailleurs, et Aurélien Pradier ont déposé un projet de loi récemment pour améliorer la protection des femmes qui a été voté à l'unanimité. C'est un progrès. Il y a encore des progrès à faire. Mais en revanche, ça n'est pas un progrès quand certains font l'objet d'une forme de... Je ne parle pas de Roman Polanski parce que c'est un cas encore particulier.
Non, attendez, vous n'avez pas répondu à la question.
Il
je suis désolée.
Minutes.
Roman Polanski, c'est intéressant. Pour paraphraser le ministre de la Culture, est-ce que le génie, finalement, est une circonstance atténuante quand il y a viol?
Non, le génie n'est en aucun cas une circonstance atténuante.
Donc vous irez voir éventuellement ce film? Vous encouragez les autres à aller voir ce film ou pas?
je crois en revanche que indépendamment le problème de la création
à la question.
Le problème de Roman, ce qui pose problème dans le cas de Roman Polanski, c'est que Roman Polanski a tenté, si je comprends bien son parcours, de se soustraire à la justice. Ça, c'est un problème grave. Mais si vous voulez, après, il est tout à fait clair aussi que de grands génies peuvent produire de grandes œuvres malgré le caractère scandaleux de leur existence.
Donc, sans faire une dissertation de philo, en gros, j'accuse, vous y allez.
On peut lire de grands textes de philosophie qui ont été écrits par des gens qui, par ailleurs, étaient des crapules.
Si Marlène Schiappa dit qu'elle n'ira pas, vous, on vous pose la question, est-ce que vous irez le voir?
Moi, je n'irai pas voir ce film, je n'ai pas d'estime pour la personne, je suis gêné en revanche.
Ah, voilà.
Je suis gêné notamment par le fait que cette personne se soustrait à l'exercice de la justice, parce que ça, pour le coup, ça me paraît très grave. En revanche, je ne crois pas une seule seconde qu'on devrait soumettre l'approbation d'une œuvre artistique à un jugement moral sur la nature de la personne. Et quand je vois l'espèce de puritanisme qui est en train de s'emparer de notre rapport aux œuvres de la culture, je me dis qu'on ne gagne rien du point de vue de la liberté.
Donc vous faites preuve également.
On va devoir malheureusement en rester là, mais le débat est passionnant et j'espère que vous reviendrez, François-Xavier Bellamy, pour
merci
le prolonger.
Pour votre invitation.
Merci, bon dimanche. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Question Paul. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.